Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour en ondes. Je vais laisser Marc-Antoine nous préparer, nous présenter sa chronique sur la crise de sécurité en Équateur.
Parfait. Merci de l'introduction, Enzo, d'ailleurs. Avant de commencer ma chronique plus en détail, j'aimerais poser la question suivante à mes collègues du NEF. Est-ce que vous connaissez l'actualité en lien avec ce pays?
Oui, un petit peu, là, justement. Là, il me semble que j'ai vu dernièrement, Il y a un chef de gang, justement, qui se serait évadé, je pense que c'est ça. Corrige-moi si j'ai tort.
C'est effectivement ça. Il y en a même deux qui sont évadés de prison. Je vais porter mon attention plus sur un que l'autre, mais c'est les chefs de gang qui sont des deux organisations les plus puissantes au pays, soit les Choneros et les Lobos. Je vais porter mon attention plus sur les Choneros. Donc... traditionnellement, l'Équateur est reconnu comme un pays sécuritaire en Amérique latine, surtout depuis la période entre 2007 et 2017, sous la présidence de M. Correa. Récemment, son statut est remis en question par la crise de sécurité importante depuis quelques années. Cette crise, toujours en cours, continue de prendre l'ampleur. Dimanche 7 janvier 2024, Adolfo Machias, surnommé Fito, chef des Choneros, s'évade de la prison régionale de Guayaquil alors qu'il devait être transféré vers la prison de La Roca, un établissement à haute sécurité dans la même ville. Petite parenthèse sur les Choneros, comme je l'ai mentionné, c'est l'une des organisations criminelles les plus puissantes au pays, avec près de 8000 membres, impliqués principalement dans le narcotrafic. Avec les Lobos, ils sont parmi les principales organisations émergentes des prisons et ayant un contrôle sur le trafic de cocaïne du pays. Il faut dire que l'Équateur est une zone stratégique, une zone de transit entre la Colombie et le Pérou, qui sont d'ailleurs deux des plus grands producteurs de cocaïne au monde, soit la Colombie qui est en premier et le Pérou en deuxième. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu le documentaire à JE qui est passé vendredi sur ça, parce qu'il y avait une situation, c'était trois Québécois qui étaient emprisonnés au Pérou de manière provisoire en lien avec le trafic de cocaïne.
Non, j'ai pas vu le documentaire, mais clairement, je vais me le noter, puis je pense que j'invite tout le monde qui nous écoute à le noter aussi. Ça a l'air quand même assez intéressant. Hein. J'imagine que tu vas nous en dire un petit peu plus. Là.
Ben, personnellement, je l'ai vu, c'est très intéressant. On parle beaucoup de comment il y a une agence au Pérou qui est en partenariat avec la DEA, qui éradique les productions illicites de cocaïne destinées au trafic, justement. Là. C'est un bref résumé. Donc, pour revenir à ma chronique, par ce transfert, le gouvernement de M. Noboa, actuellement qui est président élu depuis le mois de novembre, qui a été élu d'ailleurs pour régler la crise d'insécurité en Équateur, visait à réduire l'impact des groupes criminels présents dans les prisons. Selon Crisis Group, le plan était connu parce que Fito était introuvable quand les policiers sont venus le chercher pour leur transfert. Quelle a été la réponse du gouvernement, d'après vous?
Je ne sais pas. La réponse du gouvernement sur...
Par rapport à la crise, là, en général.
Je dirais qu'ils ont fait, ils ont déclaré l'état d'urgence, là, parce que, d'après ce que je comprends, c'est que Fito, là, c'est comme... j'ai oublié le nom du grand criminel qui faisait beaucoup de qui vendait beaucoup de cocaïne, qui était rendu un...
Pablo Escobar?
Oui, Pablo Escobar, merci. C'est un nom, c'est si difficile à oublier ce nom, et pourtant... Fait que ouais, ça a l'air d'un Pablo Escobar, donc j'imagine que...
Et si je me trompe pas, l'Équateur parlait de faire même appel à des pays voisins. Il y a même les États-Unis qui ont proposé de leur venir en aide au niveau de la sécurité nationale. Si...
Effectivement, je vais répondre en premier à la question de Jérémy, c'est effectivement, il y a eu un état d'urgence qui a été décrété pour 60 jours à la grandeur du pays, ce qui n'est pas une approche qui est nouvelle en soi. Ça avait été utilisé en Équateur par le prédécesseur de M. Noboa, M. Guillermo Lasso. Il l'avait utilisé à 10 reprises soit dans des régions spécifiques ou à la grandeur du pays. Malheureusement, ça a plutôt moins fonctionné. Ça a plus ou moins fonctionné, pardon. Parce que la violence continuait d'augmenter. Et pour répondre à la question d'Enzo, effectivement, les États-Unis ont proposé du soutien, pas militaire, parce que c'était surtout à la présidence de Guillermo Lasso que l'Équateur voulait faire l'équivalent du plan Colombie. Il y avait un plan Équateur qui demandait assistance pour des fonds, notamment pour renforcer la sécurité avec les États-Unis et l'Union européenne qui voulait être partenaire. Par contre, la situation a été difficile parce qu'il y a des allégations qui ne sont pas nouvelles en soi de corruption dans les forces de l'ordre en Équateur. Pour revenir brièvement sur l'état d'urgence, l'état d'urgence implique un déploiement de l'armée, un couvre-feu pour les citoyens qui s'y trouvent. Il y a également eu aussi un décret que le gouvernement a fait, décret 111, pour répondre à la crise qui, entre autres, ce que le décret dit, c'est que toutes les organisations criminelles, en particulier, c'est une vingtaine d'organisations, dont les Choneros et les Lobos, sont considérés un peu comme ennemis de l'État. Ce qui est particulier, c'est que ça a été voté unanimement à l'Assemblée nationale, alors que c'est traditionnellement, les forces politiques sont divisées en du côté du spectre idéologique, donc souvent à gauche, soit à gauche ou à droite. Puis c'est également la... Au niveau régional, c'est le deuxième pays après la Colombie à être dans une situation de conflit. La Colombie est entre autres... c'est depuis les accords de paix de 2016 que la situation s'est vraiment dégradée en Équateur. Parce que ceux qu'on appelle communément les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ont signé un accord de paix avec le gouvernement en 2016. Ce qui mettait fin à un conflit vieux de 53 ans. Et suite à ça, il y a eu une multiplication des acteurs, autant locaux qu'à l'étranger, qui essayaient de contrôler les routes qui appartenaient aux FARC précédemment. Donc, au niveau des causes, c'est surtout... Il y a eu certaines décisions au niveau plus politique qui ont joué un rôle... Il y a eu beaucoup, après le départ de M. Correa, il y a eu beaucoup de diminution de dépenses publiques. Ils ont aboli le ministère de la Justice. Ils ont mis en place une agence dans les prisons qui a perdu très rapidement le contrôle de la population carcérale. On parle maintenant, c'est environ 30 000 personnes qui sont emprisonnées dans le pays. Il y a aussi, bien évidemment, il y a la COVID qui a joué énormément un rôle. Puis, pensez-vous qu'il y a des solutions qui existent, outre les interventions des acteurs étrangers, comme on a dit?
C'est vraiment difficile à dire ici, assis confortablement dans les studios de la CFAQ. J'imagine que... D'après ce que j'ai compris, dû à la corruption, c'est notamment comme ça que s'est enfui justement le chef des Choneros. Donc, je pense qu'une des premières choses à régler, ça serait bien des problèmes de corruption. Si les problèmes de corruption sont si graves que des ennemis de l'État, comme tu as dit, sont capables de s'enfuir des prisons, donc c'est pas un petit problème, là. Donc, j'imagine que ça... Instinctivement, moi, c'est vers là que j'irais, mais... Rendu là.
Enzo?
Il y a peut-être. C'est dans un premier temps, effectivement, mais sur le long terme, je pense pas qu'il faut répondre nécessairement que par la question sécuritaire. Je pense que s'il y a ces tensions et cette insécurité constante dans ce territoire-là, c'est dû à une situation politique et économique de base, comme il disait, la corruption. Il faut regarder aussi du côté des élites politiques comment elles gèrent leurs institutions et le pays. Et le niveau social aussi de ce pays-là peut être très déterminant sur les conditions des populations et donc déterminé vers des situations comme telles, quoi, de crise.
Ben, effectivement, vous aviez une partie de la réponse. C'est beaucoup, c'est que l'approche qui est utilisée actuellement en Équateur, c'est une approche qui est surtout axée sur du court terme. On recommande plus une approche sur le long terme. Beaucoup limiter la hausse de la corruption, reprendre le contrôle des ports et des prisons. D'ailleurs, les ports sont privatisés depuis M. Correa. Et impliquer éventuellement, s'appuyer sur le consensus, impliquer éventuellement toutes les parties politiques dans les points principaux de l'éventuelle future réforme de sécurité.
Eh bien, merci Marc-Antoine pour cette intéressante chronique. Je vais vous laisser avec une page de musique, puis je laisserai Jérémy nous présenter sa chronique sur la crise en mer Rouge.